Alors, lors de la visite de la maison, il faut surtout bien examiner les façades, les parois intérieures, les fenêtres, les portes, le toit. Aussi, ce qui est important, c'est toutes les installations électriques, tous les raccordements, les canalisations d'eau, le chauffage, la salle de bain, notamment en raison de moisissure possible, et puis la cuisine également. Il faut vraiment examiner le tout très minutieusement parce que souvent les vices puis les défauts sont cachés, donc ils sautent pas aux yeux à la première visite. Et puis si on doit se lancer dans des réparations par la suite, ça peut être vraiment onéreux. Il faut également demander quel est le niveau de garantie parce qu'il arrive souvent que les anciennes demeures, elles soient vendues en l'état. Ça veut dire que ça exclut dans une certaine mesure les droits à la garantie, évidemment dans les limites qui sont autorisées par la loi.
Donc ça veut dire que quand on visite une maison, on a le droit de demander plusieurs visites, des contre-visites, et puis se faire accompagner par un expert pour justement pouvoir avoir l'œil sur ces éventuels défauts cachés.
Oui, alors je pense que si vous n'êtes effectivement pas du métier, c'est judicieux de se faire accompagner par un expert qui pourra tout de suite regarder les points importants.
Est-ce qu'on peut demander au propriétaire de nous fournir des justificatifs ?
Oui, vous pouvez sans autre lui demander qu'il vous fournisse les justificatifs des travaux d'entretien, les mesures d'assainissement. Comme ça, vous pouvez voir où ça en est au niveau de l'entretien, puis tout ce qui a été fait pour assainir la maison. Vous pouvez aussi lui demander s'il est d'accord de vous montrer les décomptes chauffage. Comme ça, ça vous donne une bonne idée de ce que ça peut vous coûter. Et puis, vous pouvez également estimer l'isolation de la maison. S'il y a des factures très hautes, là, vous pouvez vous dire, hop, attention, il y a peut-être un problème d'isolation. Et puis, demandez également à consulter la valeur officielle de la maison et la valeur incendie, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des taxes qui sont perçues ensuite. Et puis, ces taxes, elles se fondent sur ces valeurs-là. Donc, si vous faites des rénovations importantes, par exemple, ou bien des travaux à l'intérieur, mais vraiment des gros travaux, hein, ça peut augmenter la valeur officielle du bien. Et puis, donc, il y a certaines taxes qui vont aussi augmenter. Donc, il ne faut vraiment pas oublier ces taxes qui viennent par la suite et qui sont basées sur ces valeurs-là.
Et ensuite, qu'en est-il du contrat de vente ? Comment ça se passe ?
Alors, le contrat de vente engage le vendeur à transférer la propriété du bien et puis engage l'acheteur au versement du prix d'achat qui a été convenu. Donc, le contrat, il doit bien sûr décrire le bien qui est vendu, mentionner la date du transfert de propriété. Donc ça, après, ce sera inscrit au registre foncier. Et puis, vous pouvez aussi mentionner quand le paiement sera fait, si c'est 30 jours après, par exemple, le transfert de propriété, ou alors plus tard ou avant. Il est également possible de constater dans le contrat de vente les vices et les défauts que vous avez vus sur place. Et puis, vous pouvez mentionner qui est responsable de les réparer et donc d'assumer les frais qui en découlent. Il faut également mentionner dans ce cas les normes qui sont applicables pour les réclamations en cas de défauts cachés, par exemple. Ce qui est important à savoir, c'est que le contrat de vente, il est valable seulement à partir du moment où les deux parties l'ont signé, donc et le vendeur et l'acheteur, et puis ça se fait devant un notaire. Donc c'est un passage obligé, c'est devant un notaire. Et les frais de notaire, il faut savoir qu'en général, ils sont assumés par l'acheteur. Donc il faut pas oublier de compter ça dans votre demande de crédit, par exemple, si vous faites une demande de crédit à la banque. Il y aura des frais de notaire que vous pouvez lui demander, plus ou moins aussi d'estimer, hein. Le contrat doit également mentionner les éventuelles restrictions, comme par exemple s'il y a un droit de passage pour le voisin. Ça, c'est quelque chose qui est très important à savoir avant de prendre possession de la maison, parce que ce sont souvent des restrictions qui sont inscrites au registre foncier, et puis que vous ne pouvez pas comme ça dire « non, moi je n'ai plus envie, je supprime ». Donc ça, il faut aussi, c'est un point auquel il faut vraiment faire attention. Et puis, le contrat mentionnera finalement, en général, la garantie qui est applicable en cas de défaut ou de vice.
Et est-ce qu'il est possible de casser le contrat de vente peu de temps après l'avoir signé et surtout dans quel délai ?
Alors oui, c'est une possibilité qui existe pour autant que vous puissiez prouver que le vendeur vous a sciemment trompé. Donc j'avertis déjà, c'est pas facile. Hein. Donc il faut vraiment qu'il vous ait sciemment trompé, qu'il ait eu l'intention de vous tromper, qu'il a caché des vices ou qu'il a intentionnellement menti parce qu'il voulait absolument se débarrasser de sa maison par exemple. Ça, c'est ce qui concerne l'achat d'une maison. Mais si on se lance dans une construction, il y a des règles à connaître. Et puis, on veut y revenir juste après.
Exactement. Donc, ça veut dire que ce n'est pas comme un contrat ordinaire, on va dire, où on a un droit de rétractation. Une fois que c'était signé devant notaire, c'est un peu la galère pour réussir à stopper un contrat.
Oui, alors il faut aussi dire qu'en général, c'est un contrat qui se réfléchit vraiment un peu plus avant de le signer que quand vous achetez un livre, par exemple.